Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous. Dernière victime de la purge en cours en Turquie depuis la tentative de coup d'État de juillet dernier, le rédacteur en chef du quotidien d'opposition Cumhuriyet, placé en garde à vue ce lundi matin, ainsi qu'une dizaine de ses collègues. La presse est particulièrement touchée par ces représailles, avec l'arrestation de dizaines de journalistes et la fermeture de plus d'une centaine de médias à Nandlower.
Il suffirait qu'un seul des dirigeants et chroniqueurs du quotidien Cumhuriyet placé en garde à vue soit finalement incarcéré pour que la Turquie franchisse la barre symbolique des 100 journalistes en prison depuis le coup d'État manqué. Cumhuriyet n'est pas n'importe quel journal, fondé en même temps que La République, qui vient juste de fêter ses 93 ans. C'est l'un des principaux médias d'opposition au président Recep Tayyip Erdogan. Certes, son tirage n'est plus ce qu'il était, à peine 50 000 exemplaires distribués chaque matin, mais c'est une voix qui compte, une voix menacée, comme beaucoup avant elle, d'être condamnée au silence. Les relations houleuses entre le chef de l'État et la presse critique ne datent pas du putsch manqué. Mais depuis le 15 juillet, à la faveur de l'état d'urgence, le pouvoir turc a les mains libres pour fermer les titres qui dérangent, soit en édictant des décrets, soit en engageant des poursuites. La première méthode est la plus courante et la plus expéditive. En 3 mois et demi, 168 médias ont été interdits sur décision du gouvernement. Si, dans un premier temps, la censure concernait surtout les médias proches de l'imam Fethullah Gülen, suspect numéro 1 de la tentative de putsch, les dernières interdictions visent des supports accusés de propagande pour le compte du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. C'est le cas notamment de l'agence Dijle ou des quotidiens Özgür Gündem et Azadiya Velat, qui diffusaient notamment ou exclusivement en kurde depuis les années 1990. Ils ont été fermés le week-end dernier. En ce qui concerne les journalistes de Cumhuriyet, il s'agit cette fois-ci d'une enquête judiciaire. En croire l'acte d'accusation diffusé par le procureur, le quotidien réalise une prouesse. Il est à la fois accusé de soutenir le PKK et la communauté de Fethullah Gülen, deux groupes dont on sait qu'ils se détestent de longue date. Mais la Turquie de l'état d'urgence n'est peut-être plus à une invraisemblance près.
Oh, c'est la vache. C'est un meuh de vache. Vous ne pouvez quand même pas contre les vaches.
Le bio séduit de plus en plus d'agriculteurs et pas seulement par conviction écologique. Beaucoup y voient un moyen de mieux gagner leur vie. Exemple, dans la filière lait au Danemark, un tiers du lait vendu dans ce pays est déjà bio. Alors que le marché est en crise depuis la fin des quotas européens et que les prix chutent, les éleveurs de bovins ont vite compris l'intérêt de passer au bio. Reportage de Frédéric Lebel chez Klaus Peter Christiansen, tout au nord du pays, près d'Aalborg. Sa ferme modèle de 600 vaches laitières est en pleine transition pour recevoir le label bio en novembre 2017.
Voilà déjà plus d'un an que Klaus Peter Christiansen travaille sur la conversion de sa ferme au standard bio. Une double révolution pour cet agriculteur qui en a profité pour tripler la taille de son cheptel. De 200 vaches laitières, il est passé à 600.
C'est une nouvelle manière de faire de l'agriculture. Maintenant, je suis un PDG, je suis un manager. Peut-être que je ne suis plus vraiment un agriculteur comme je l'étais avant. J'emploie aujourd'hui une douzaine de personnes alors que je n'avais que 3 employés. C'est un sacré pas en avant.
Finance, comptabilité, mais aussi nouvelles pratiques d'élevage dictées par le cahier des charges. En mode bio, les vaches ont le droit à plus de place. Il a donc fallu construire une nouvelle étable flambant neuve.
This is, yeah. The best of the best you can buy.
Oui, c'est vraiment le nec plus ultra de ce qu'il y a sur le marché. Regardez, là, c'est une brosse. Les vaches peuvent aller se gratter le dos quand elles en ont envie. Avant, ce n'était pas obligatoire. Maintenant, on doit avoir une machine comme ça pour 50 vaches. Elles adorent ça.
They love it. The curtains inside, you can...
Et puis les stores, ils se lèvent et ils se baissent automatiquement suivant la météo. Ce qui fait que l'air est bon ici. Parce que dans certaines étables, ça sent mauvais, pas ici. Et puis le robot qui ramasse la bouse, c'est bon pour les fermes bio parce qu'il faut essayer de récupérer ce fertilisant naturel du mieux que vous pouvez.
Bjarn Cargo est agriculteur, lui aussi. Il est là depuis le début du projet pour conseiller son collègue sur cette transition aussi coûteuse que périlleuse. chose. Lui, c'est un vétéran qui a choisi de ne plus utiliser d'engrais chimiques il y a plus de 20 ans. Comme consultant, il n'a pas chômé cette année, tant les candidats au bio sont nombreux. Avec la crise laitière et la chute des prix, produire du lait bio devient rentable, un choix plus économique qu'écologique, confirme-t-il dans un grand éclat de rire.
The main thing in life, that's the money.
Oui, bien sûr, c'est pour l'argent. Mais je raconte aussi souvent que lorsque je rencontre un agriculteur pour la première fois, dans son réfrigérateur, il y a de la nourriture lambda, parce que sa femme achète les produits les moins chers. Et quand je reviens 5 ans plus tard, il n'y a que du bio dans le frigidaire. Parce que quand vous commencez quelque chose de nouveau, il faut en être fier.
À cette époque de l'année, les tracteurs multiplient les allers-retours pour mettre au sec le maïs, qui sera la nourriture de l'hiver. Mais dès l'année prochaine, lorsque les prairies auront elles aussi leur label, il faudra repenser les fourrages.
C'est très difficile de cultiver du maïs si vous êtes bio. En revanche, l'herbe, le fourrage, c'est très facile. Vous voyez, ça, c'est du trèfle, et c'est mon nouvel ami.
That's my new friend.
Et de fait, le trèfle blanc est une légumineuse excellente pour le bétail qui joue aussi le rôle de fertilisant naturel, autant dire une aubaine. Sortir chaque jour 600 vaches, brouter l'herbe des pâturages est une sacrée logistique. Le bio impose beaucoup d'espace, il a fallu louer 150 hectares supplémentaires et les grands moyens toujours. Klaus va construire un tunnel sous la route qui longe sa ferme pour faciliter les déplacements. Dans cet environnement sur mesure, les bêtes devraient prospérer, se réjouit déjà l'agriculteur.
Une vache heureuse, c'est une vache qui donne beaucoup de lait. Et pour ça, il faut les nourrir tous les jours avec le même aliment, par les mêmes personnes et à la même heure. Une vache, ça aime les habitudes. Pas la peine de lui servir un repas spécial la veille de Noël. Une vache n'appréciera pas du tout. Elle sera même triste si on ne lui sert pas son menu habituel.
Si ça 7 millions de litres de lait par an sort de la ferme de Klaus, on comprend mieux comment les variations de prix au litre tirent les comptes dans le rouge ou dans le vert. Les conditions d'hygiène dans la salle de traite sont excellentes et les contrôles du lait à la sortie drastiques. Klaus craint plus que tout les infections qu'il pourra moins maîtriser dans un futur très proche.
Quand la ferme sera entièrement bio, je ne serai plus autorisé à la soigner moi-même. Il faudra que j'appelle le vétérinaire et c'est très cher. Alors peut-être que j'attendrai un peu avant de la soigner le lendemain, mais alors le lendemain matin, elle sera peut-être morte. Ce serait mieux d'intervenir tout de suite, mais dans le bio, il y a beaucoup de règles et parfois ce n'est pas dans l'intérêt des animaux. Ce sont des règles pour les règles.
Les contraintes sont nombreuses. Au total, il faut compter au moins 2 ans pour opérer la transition vers le label bio. Il faut donc avoir les reins et les nerfs solides avant d'engranger les bénéfices.
Reportage de Frédéric Lebel au Danemark, réalisé avec le soutien de l'Union européenne. Le Danemark qui veut doubler la surface agricole bio dans le pays d'ici 2020. Une avancée énorme pour ce pays qui compte déjà beaucoup de consommateurs. 8% des dépenses agroalimentaires du Danemark se portent sur le bio, un record mondial. Êtes-vous prêt à mettre votre vie entre les mains de robots ? À Grosseto, en Toscane, dans le centre de l'Italie, la question ne se pose plus. Un hôpital est à l'avant-garde d'une véritable révolution de la médecine, celle qui consiste à opérer des patients avec des robots. Reportage de Cécile Debarge.
En quelques clics, l'écran d'ordinateur se transforme en salle d'opération. On entend un médecin qui commente l'intervention alors que de petites pinces s'enfilent dans les organes et réalisent l'opération chirurgicale.
Ah, on a un commentaire en direct sur le chat.
À l'autre bout du monde, toujours derrière son écran d'ordinateur, un médecin intervient et pose une question. Voilà à quoi ressemble l'une des opérations en direct que l'École internationale de chirurgie robotique de Grosseto propose à ses étudiants de suivre. Attenant à la salle de conférence, le laboratoire ressemble à une salle d'opération classique, si ce n'est quelques machines un peu encombrantes. Ce sont les robots sur lesquels vont s'entraîner les étudiants, explique Ricardo Terossi.
Il y a des logiciels informatiques qui ensuite permettent de faire une série d'exercices pour se mettre en confiance petit à petit avec les commandes et les programmes des robots.
Parler de médecine faite par les robots, c'est déclencher tout de suite une série d'images futuristes, souvent nourries par la science-fiction. La réalité est bien plus simple, sourit amusé le professeur Bianchi, l'un des pontes de la chirurgie robotique et directeur de l'école.
La chirurgie robotique est une chirurgie mini-invasive. Ça veut dire qu'elle va essayer de ne pas ouvrir l'endroit du corps où il faut faire l'intervention, le thorax par exemple.
Ce sont donc les robots qui opèrent, mais pas tout seuls.
Le chirurgien n'est plus en contact direct avec le malade, mais il opère à travers une plateforme informatisée. Donc il est assis derrière une console, il regarde tout avec des sortes de lunettes où il voit une réalité virtuelle transmise par les bras mécaniques qui, eux, par contre, sont en contact direct avec le patient en train d'être opéré.
Un processus qui semble simple mais révolutionnaire lorsqu'en l'an 2000, un chirurgien convainc l'hôpital de Grosseto d'investir dans ce robot. Rapidement, il réalise de petits miracles, des incisions ultra précises dans des endroits difficiles d'accès comme le pancréas et des temps de guérison considérablement raccourcis pour les patients, même après de lourdes opérations.
Cela a porté Grosseto et de manière générale l'Italie à diffuser cette technique à la fois dans le pays mais aussi dans tout le reste de l'Europe. Car par rapport à d'autres pays européens et par rapport à sa population, l'Italie est l'un des pays les mieux équipés en robots.
Aujourd'hui, plus d'une quarantaine de centres hospitaliers sont équipés de cette technologie en Italie. Pourrait-on toutefois imaginer que dans le futur, les médecins soient remplacés uniquement par les machines ? Pas vraiment, répond le professeur Bianchi.
Le robot qu'on a actuellement est probablement déjà un peu dépassé, parce que la technologie va bien plus vite que ce que l'on peut imaginer. Le futur de la médecine, ce ne sera sûrement pas la chirurgie, mais la médecine moléculaire. Les anticorps, toute une série de médicaments et de vaccins qui agiront surtout pour prévenir les maladies.
Située sur le site de l'hôpital de Grosseto, l'école a été créée en 2003, une initiative inédite à l'époque. Depuis, les médecins viennent s'y former aux méthodes de pointe de la chirurgie.
Nous, ici, à l'école, on a formé 803 chirurgiens de 27 nationalités provenant du monde entier.
Car en plus des leçons organisées dans la salle de conférence qui jouxte le laboratoire, l'école propose de suivre toutes les opérations en direct grâce aux micro-caméras qui équipent les robots.
Il y a des leçons classiques où le prof est devant les étudiants avec diapositives, lectures, etc. Ensuite, il y a les cours retransmis en streaming ou bien avec une vidéoconférence diffusée dans le monde entier ou même en direct de la salle d'opération. Cette année, on a eu une vidéoconférence d'un professeur très connu de Hong Kong, une autre sur le pancréas depuis Chicago.
En attendant, les chirurgiens en chair et en os continuent de venir se former à Grosseto, où un nouveau robot a été livré cet été, portant à 11 le nombre de robots utilisés dans les hôpitaux de Toscane, l'une des régions les mieux dotées du pays.
La lecture n'est pas un plaisir, elle est souvent une corvée.
Lire, c'est une joie, c'est un plaisir.
Livre.
Berlin, laboratoire d'innovation. Voilà un drôle d'objet, mi-journal, mi-carte, qui permet de découvrir une ville hors des sentiers battus. Sébastien Vanier vit à Berlin depuis quelques années. Il propose de découvrir une ville en pleine ébullition grâce à de nombreux reportages et entretiens. Il montre une capitale allemande en pleine transformation. Sébastien Vanier au téléphone de Catherine Roland.
Ce qui m'intéressait, c'était de montrer l'évolution actuelle et l'évolution future de la capitale allemande, notamment avec tous les projets au niveau de la société berlinoise pour montrer vers quoi se dirige la société ces 10-15 prochaines années.
Ce qu'on comprend à travers vos articles, c'est que la ville, en fait, est un chantier permanent.
Berlin a effectivement beaucoup changé de visage ces dernières décennies et encore plus depuis la chute du mur. Et Berlin continue à changer à vue d'œil, ce qui a des aspects très positif parce que ça permet beaucoup d'expérience, ça permet d'ouvrir de nouveaux lieux. Ça a des aspects aussi plus négatifs. L'espace, qui est un des grands avantages de Berlin, se réduit petit à petit et les loyers augmentent beaucoup, même si on est dans des proportions encore très très éloignées de Paris.
Vous avez voulu également insister sur le caractère créatif de la ville avec ces start-up notamment qui attirent tous les jeunes actifs.
Oui, parce que les grosses industries restent très éloignées de Berlin. Donc Berlin se développe par petites entités et c'est un peu peu le terreau idéal pour ces startups. Et ce potentiel économique est reconnu puisque les investisseurs se présentent de plus en plus à Berlin. Et donc on a avec cet ensemble de facteurs un laboratoire très très actif, mais qui là encore doit lutter contre la hausse des prix dans de nombreux domaines.
J'ai noté cet article sur une startup, la startup sur la mode avec des textiles à la pointe de la technologie.
Oui, c'est vrai que Berlin se développe énormément sur cette question des textiles connectés, puisque ça lie le développement de la mode à Berlin et les questions de la digitalisation et de ce fameux Internet des objets. Donc là, en l'occurrence, c'était un laboratoire qui développe ce textile électrique.
Et puis, il y a ce projet religieux, The House of One, qui devrait rassembler toutes les religions sous un même toit, une mosquée, une synagogue et puis une église protestante.
C'est un projet qui, selon les dires de ses initiateurs, ne peut se développer que à Berlin où les tensions religieuses sont quand même très très modestes, mais qui pourrait éventuellement servir d'exemple à d'autres villes s'il arrivait à se concrétiser.
Enfin, quand on pense à Berlin, on pense à Berlin capitale verte. Et Berlin se pense à l'avenir vert dans tous les sens du terme, aussi dans les transports, en commun.
La question la plus actuelle à Berlin, c'est le développement du réseau cyclable, mais ça se développera aussi sur la question du car sharing et la question de la place de la voiture et notamment les différentes pistes qui ont été évoquées par les interlocuteurs pour le reportage. C'est notamment comment les métropoles vont s'adapter au développement prévisible et a priori qui pourra arriver très vite des voitures autonomes.
Oui, et puis il y a aussi la place qu'on peut laisser au vélo à Berlin. Je sais qu'il y a une pétition en ce moment pour que Berlin devienne friendly vélo, si on peut dire.
Les Allemands, en général, ont cette réputation d'être très adeptes du vélo, même s'il y a des villes qui sont beaucoup plus développées pour ça. Et il y a différents projets qui se développent actuellement avec des autoroutes de vélo, notamment, et cette pétition pour développer les infrastructures qui pourront aider les cyclistes à encore mieux se déplacer dans la ville.
Berlin, laboratoire d'innovation de Sébastien Vanier, aux éditions Atelier Henri Dougier. Lazarus, extrait du dernier album de David Bowie, disparu en janvier dernier, et qui a donné son nom à la comédie musicale jouée à Londres depuis la semaine dernière. La toute dernière création de l'artiste anglais semble tout aussi prophétique que l'album, Marie Billon.
Ils sortent de la salle émus, certains ont l'air de s'accrocher au programme. Ce n'est qu'à la toute fin qu'une photo de David Bowie est apparue sur un écran, mais pendant les deux heures qu'a duré la représentation, il n'a jamais quitté l'esprit des spectateurs.
On sent qu'il a mis son âme dans cette œuvre, notamment avec les derniers mots du personnage principal quand il dit qu'il sait qu'il ne sera bientôt plus, qu'il sera libre. J'ai l'impression que Bowie repose en paix et qu'il a dit ce qu'il avait à dire.
C'est son cadeau d'adieu, il nous dit au revoir. Il a fait de sa mort une œuvre d'art et c'est le spectacle le plus original, le plus remarquable que j'ai jamais vu.
Cela faisait des années que le chanteur voulait monter une comédie musicale et il a réussi juste à temps. Sa dernière apparition publique a eu lieu lors de la première à New York en décembre 2015. Ce spectacle constitue la suite de L'Homme qui venait d'ailleurs, un film dans lequel Bowie avait tourné en 1976. Un extraterrestre, Thomas Jerome Newton, quitte sa planète pour trouver de l'eau. Il est sur scène interprété par l'acteur américain Michael C. Hall, plus connu pour son rôle de tueur en série dans le feuilleton Dexter, mais la plupart des spectateurs sont agréablement surpris de sa version de Lazarus. Look up here, I'm in heaven. Lazarus est extrait du tout dernier album Black Star, mais Bowie avait prévu des surprises, trois chansons interprétées sur scène par les acteurs, mais il les chante aussi lui-même dans l'album de la comédie musicale, comme celle-ci No Plan. Une chanson assez lugubre et pourtant cette comédie musicale n'est pas un requiem, même si l'intrigue est cryptique et ardue à suivre. Mais c'est que, disent les fans, David Bowie a voulu que l'on s'interroge sur le sens de son message pour l'éternité.
Jérémy Besset a réalisé cette émission. Accent d'Europe à retrouver demain dès 12h40 en universel. Un nouveau journal sur RFI dans moins d'une minute.